Alors, je me présente, Jean-Claude Pénrat, je suis membre du Centre d'études africaines, je suis anthropologue, je ne suis pas spécialiste du Soudan, mais je serai le double de l'horloge ce matin pour essayer de maintenir le timing et le rythme, étant entendu que les trois interventions vont se succéder et que la discussion interviendra après, en fonction du temps qui nous restera, mais j'essaierai d'être vigilant sur ce temps. Alors maintenant, je passe la parole à Anne-Claire Bonneville, qui est historienne à l'INAP.
Merci. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et puis Pierre avec lequel j'ai été en contact depuis un certain temps autour de ces journées d'études. Alors je vais vous parler des visées égyptiennes sur la haute vallée du Nil sur la période 1898-1956. L'histoire de la domination égyptienne sur le Soudan court sur une période de près d'un siècle et demi. Elle s'est ouverte, on l'a évoqué tout à l'heure, en 1820 et même 1813, évoquait-on tout à l'heure, avec le début de la conquête égyptienne sur la haute vallée du Nil, et elle prend fin avec l'indépendance du Soudan le 1er janvier 1956. Cette longue histoire connaît deux grands moments, celui de la conquête du pays et de son organisation, où les Égyptiens détiennent seuls l'autorité, même si, tu viens de le dire, Pierre, ils associent à leur travail quelques Européens. Cette première période prend fin avec le retrait des troupes égyptiennes sous la pression des Britanniques en 1885. Le second temps s'ouvre avec la reconquête du Soudan sur les forces mahdistes en 1898 et la mise en place du condominium anglo-égyptien. Comme l'indique le terme même de condominium, les Égyptiens ne sont plus seuls à gérer le Soudan et on pourrait même dire qu'ils sont tout juste tolérés par les Britanniques. En dépit du rôle très limité qui leur est concédé dans la gestion du Soudan, les Égyptiens n'ont de cesse, à partir du règne d'Abbas Ilmi et durant toute la période de la monarchie égyptienne jusqu'en 1952, d'affirmer l'unité de la vallée égyptienne. De la vallée du Nil sous la couronne égyptienne. La fin de la monarchie égyptienne ouvre en revanche une nouvelle période dans l'histoire du condominium. L'irruption des officiers libres sur la scène égyptienne ne vient pas seulement bouleverser la vie politique de l'Égypte, mais également le discours, les perspectives et les implications des Égyptiens dans la vie du Soudan. Alors, reprenons le début de cette affaire. En 1899, une convention de condominium destinée à organiser l'administration et la gestion du Soudan est signée par le Royaume-Uni et l'Égypte. Le Soudan a été officiellement reconquis au nom du Khédive égyptien par l'armée égyptienne avec la participation des Britanniques. Mais très clairement, les Britanniques qui sont contraints de s'associer aux Égyptiens en raison de leur rivalité avec les Français, n'ont pas l'intention de laisser dans la gestion du Soudan reconquis beaucoup de place aux Égyptiens, qu'ils ont d'ailleurs placés sous leur propre tutelle en 1882. Et dans ses instructions datées du 2 août 1898, le marquis de Salisbury écrit « Au regard de la coopération militaire et financière substantielle qui a été récemment offerte par le gouvernement de Sa Majesté au gouvernement du Khédive. Le gouvernement de Sa Majesté a décidé qu'à Khartoum, les drapeaux britanniques et égyptiens devraient être hissés côte à côte. Vous expliquerez cependant au Khédive et à ses ministres que cette disposition est destinée à souligner le fait que le gouvernement de Sa Majesté considère qu'il a une voix prédominante sur toutes les affaires liées au Soudan. Les Égyptiens vont chercher de leur côté à tirer parti de l'épisode de Fashoda pour proclamer haut et fort à l'intention des Britanniques que si le Soudan appartient bel et bien, que le Soudan pardon, appartient bel et bien à l'Égypte et à nulle autre puissance, même si les Britanniques ont contribué à sa reconquête. Dans une lettre adressée à Lord Cromer, Boutros Ghali indique très clairement, je le cite, que le gouvernement de son n'a jamais perdu de vue la réoccupation des provinces du Soudan, dont il ne s'était retiré qu'à la suite de circonstances de force majeure. Et Boutros Ghali prie Lord Cromer de se faire l'avocat de l'Égypte auprès de Lord Salisbury, alors en discussion avec le gouvernement français à propos de Fashoda, je le cite, « afin que les droits incontestables de l'Égypte lui soient reconnus et que toutes les provinces qu'elle occupait jusqu'à la rébellion de Mohamed Ahmed lui soient rendues. » Au moment de la signature de la convention de condominium, le Khedive est assuré que cet acte purement administratif ne touche en rien à la souveraineté de l'Égypte, même si celle-ci n'est pas réaffirmée en tant que telle dans le document. En dépit de ces gesticulations, les Khedives ont bien conscience de la place qui leur est réservée. Le Khedive Abbasilmi, dans ses mémoires, relève que c'est avec une douleur déchirante que mon ministre des Affaires étrangères signa l'acte de condominium imposé par l'inflexible Lord Cromer. Et ailleurs, il écrit « Le nom du Khedive n'était qu'un drapeau étalé aux yeux du monde pour couvrir le jeu des Anglais. » Les Britanniques vont s'efforcer de réduire le rôle des Égyptiens, voire leur présence même au Soudan. Dès 1899, la convention de condominium attribue aux Égyptiens un rôle subalterne. L'article 3 prévoit la nomination d'un gouverneur général par décret khedivial sur la recommandation du gouvernement de Sa Majesté britannique. Donc est bien affirmée ici l'idée de co-gestion, mais les dispositions de l'article 3 laissent entendre que l'Égypte ne jouera qu'un rôle subalterne. Lorsqu'en 1900, juste après le départ du Soudan de Kitchener, les 11e et 14e bataillons se révoltent à Khartoum, Cromer a tôt fait d'attribuer, sans preuve aucune, la responsabilité morale du mouvement au Khedive. Et à partir de ce moment-là, les Britanniques élaborent une stratégie visant à écarter, autant que faire se peut, les Égyptiens de l'espace soudanais. Il s'agit d'introduire autant que possible les habitants du Soudan dans les structures civiles et militaires en lieu et place des Égyptiens. Cette politique ne s'appelle pas encore la soudanisation, parce que le terme n'apparaît que dans les dernières années du condominium, mais elle y ressemble déjà. Les Britanniques réfléchissent aussi à la possibilité de réduire la présence militaire égyptienne au Soudan. Mais la permanence d'un état latent d'insécurité et de révolte ne permet pas d'envisager sérieusement le départ des forces armées égyptiennes dans un proche avenir. Toutefois, cette option ne quittera pas l'esprit des Britanniques qui, en 1924, profiteront de l'assassinat au Caire du gouverneur général et sirdar de l'armée égyptienne par des nationalistes égyptiens pour mettre en œuvre un plan déjà parfaitement établi et qui n'attendait qu'un prétexte pour être exécuté, plan d'évacuation immédiate du Soudan par les troupes égyptiennes. Enfin, dès le début du siècle, l'idée avait été lancée de créer des bataillons constitués de Soudanais uniquement, voire de mettre sur pied une armée purement soudanaise, et l'occasion de fonder la Sudan Defense Force, la SDF, sera précisément saisie en 1924 au départ des Égyptiens. L'évacuation imposée en 1924 ne met toutefois pas un terme au condominium. Les Britanniques eux-mêmes ne le souhaitent pas parce que les Égyptiens paient pour le Soudan. Dès la mise en place du condominium, le Soudan n'ayant pas de revenus propres, le trésor égyptien est mis à contribution. Aux dépenses de fonctionnement ordinaires s'ajoutent les investissements très lourds réalisés dans les infrastructures ferroviaires ou télégraphiques. Abbas Ilmi, plus tard, décrit la situation de la manière suivante. Ce qui devait être un condominium ne fut qu'un dominion auquel l'Égypte était chargée de fournir des millions de livres et de soldats. Mais les autorités égyptiennes ne s'opposent pas fondamentalement à ces ponctions sur les finances égyptiennes dans la mesure où elles viennent attester du fait que le Soudan fait partie intégrante de l'Égypte. Après 1924, les Égyptiens continuent à payer pour le Soudan, La contribution égyptienne aux finances du Soudan a été calculée par Gawain W. Bell, qui est membre du secrétariat civil. Il indique que l'aide financière égyptienne sur la période 1899-1924 est de 9 152 000 livres égyptiennes et de 10 500 000 de livres égyptiennes entre 1924 et 1940. Et ces aspects financiers sont importants. Ils ont longtemps représenté l'un des principaux freins à la mise en œuvre de la politique britannique de séparation de l'Égypte et du Soudan. En 1936, avec la signature du traité anglo-égyptien, les Égyptiens exigent le retour au fonctionnement normal de la convention du condominium. De jure, les Égyptiens ont le droit de revenir au Soudan et d'occuper des postes dans l'administration. Mais les Britanniques, pour limiter la participation égyptienne, ont ajouté un court paragraphe dans l'article 11 qui stipule qu'en l'absence de Soudanais qualifiés pour occuper un poste, le gouverneur général, je cite, choisira des candidats convenables de nationalité britannique ou égyptienne. L'administration du Soudan entre dans une dynamique de soudanisation pour éviter le retour des Égyptiens. Du côté égyptien, plusieurs notes dans les archives font état de doléances des Égyptiens qui maugréent contre le fait que les candidats qu'ils proposent sur des emplois au Soudan ne sont jamais retenus. Il faut nuancer le propos. Les Égyptiens, dans leur grande majorité, ne se montrent guère désireux de venir au Soudan et d'y faire leur carrière, ou même seulement une partie. En dépit de ces vicissitudes politiques, un point est particulièrement frappant, c'est le soin avec lequel les Égyptiens répètent que le Soudan fait partie de l'Égypte. La revendication constante de la dynastie égyptienne est la reconnaissance de la souveraineté de l'Égypte sur le Soudan. Et à cette fin, le Khedive Abbasilmi énumère avec application tous les titres ottomans qui viennent fonder à ses yeux la légitimité de la revendication égyptienne sur le Soudan. La question du lien de l'Égypte et du Soudan devient plus vive lorsque l'Égypte conquiert son indépendance. Or, les Britanniques ne sont pas prêts à reconnaître à l'Égypte la moindre forme d'autorité sur la haute vallée du Nil. Un exemple, lors de la rédaction du texte constitutionnel égyptien, les Britanniques n'admettent pas du tout que la formule « roi du Soudan » puisse apparaître au moins du monde dans la titulature du souverain égyptien. Les Égyptiens ont beau expliquer que le Khedive d'Égypte avait toujours été reconnu comme le dirigeant du Soudan, la détermination des Britanniques sur ce point est telle qu'ils en viennent à envoyer un ultimatum au gouvernement égyptien. Celui-ci obtempère, puis démissionne. Si les Égyptiens sont obligés de céder sur le texte constitutionnel, dès 1924, le président du Conseil de la monarchie constitutionnelle, Saad Zarloul, recommence a affirmé devant le Parlement que le Soudan fait partie de l'Égypte et qu'il en constitue une partie indivisible. À son tour, le gouvernement de Zarloul fait le choix de démissionner sur la question du Soudan plutôt que d'accepter les termes de l'ultimatum britannique après l'assassinat de Sir Lee Stack. À 18 mois d'écart, ces deux démissions témoignent de l'importance du Soudan pour l'Égypte. On peut encore évoquer l'épisode de 1946-47. À la sortie de la guerre, les Égyptiens demandent l'ouverture de négociations pour réviser le traité signé en 1936. Dans le traité auquel on aboutit, le droit reconnu aux Soudanais dans le protocole additif, je cite, de choisir le futur statut du Soudan, laisse supposer que ceux-ci pourraient un jour prendre leur indépendance, ce qui est inacceptable aux yeux de l'opposition qui défend l'idée d'une unité permanente de l'Égypte et du Soudan sous la couronne égyptienne. Le traité n'est pas ratifié. Et à nouveau, un gouvernement égyptien tombe sur la question du Soudan. Le recours de l'Égypte devant le Conseil de sécurité en 1947 est l'occasion de développer le discours irrédentiste égyptien. Les arguments égyptiens sur le Soudan, mélange de mythologie, de reconstruction historique et de ressentiment à l'égard de la puissance britannique, sont exposés dans l'intention d'emporter la conviction des membres du Conseil. Le président du Conseil égyptien, Loukrachi Pacha, souligne le caractère vital pour l'Égypte de son union avec le Soudan en raison du Nil. Il est indispensable pour l'Égypte de contrôler son alimentation en eau, donc les sources du Nil. Une discontinuité politique de la vallée du Nil ferait peser une menace terrible sur le Nord. Et les Égyptiens prêtent précisément aux Britanniques le projet de vouloir séparer le Soudan de l'Égypte afin de disposer d'un moyen de pression sur le Caire pour notamment faire taire l'élan nationaliste un peu trop prompt à s'exprimer en Égypte. Cette vision du Nil comme une sorte de robinet qu'il serait possible d'ouvrir ou de fermer selon le degré d'amitié qui lierait les deux pôles de la vallée tient bien évidemment de l'imagerie enfantine. Nukrashi cherche d'autre part à accréditer auprès de son auditoire la thèse de l'union profondément naturelle de l'Égypte et du Soudan. L'unité politique en est l'expression la plus achevée, fruit d'un long et irrésistible processus. Nukrashi met d'abord la géographie au service de sa thèse avant de procéder à une relecture tout à fait originale de l'histoire des deux pays, gommant toute notion de conquête. Je le cite, « La pénétration égyptienne au Soudan ne fut pas préconçue, elle fut simplement l'œuvre de forces naturelles tendant vers l'unité. » Ce phénomène, sui generis, permet à l'Égypte et au Soudan de partager une même communauté de langue et de culture. Quant à la spécificité culturelle et ethnique du Sud, elle est tout simplement ignorée. Mehmet Ali occupe dans ce récit une place de choix. Il n'a fait que favoriser l'achèvement d'un édifice en gestation depuis des siècles. Son œuvre politique est l'aboutissement d'un processus qui vise, depuis les premiers temps du monde où les éléments géographiques se sont ordonnés, à unir l'Égypte au Soudan. Et contre cette réalisation, les Britanniques se sont acharnés. Nukrashi espère, par ses arguments, avoir convaincu son auditoire que l'Égypte ne s'inscrit pas dans une perspective impérialiste. Et c'était en effet la critique que redoutait le plus le délégué égyptien près l'ONU. La revendication égyptienne sur le Soudan s'explique aussi par la pression démographique. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, l'Égypte connaît une croissance démographique importante qui pèse en premier lieu sur le monde rural. L'installation égyptienne au Soudan permettrait de diminuer la pression démographique sur la vallée du Nil, de résoudre en partie le problème du sous-emploi dans le monde rural et de réduire le phénomène d'explosion urbaine qui se manifeste dans l'entre-deux-guerres. La concurrence possible du coton, de qualité équivalente à celle de l'Égypte, explique aussi le souci égyptien de contrôler le Soudan et donc ses productions. Enfin, la revendication égyptienne d'unité de la vallée du Nil s'explique par le souci qu'a l'Égypte de s'imposer comme le pays leader du monde arabe. Dans ce contexte, la domination du Soudan par l'Égypte augmenterait considérablement le poids géographique, démographique, économique du royaume égyptien sur la scène moyenne-orientale, mais également sur la scène africaine, comme le signale avec une pointe d'inquiétude l'attaché militaire français au Caire. Voilà ce qu'il dit. L'empire égyptien ainsi constitué deviendrait la plus vaste et la plus puissante des nations africaines. L'islam pousserait ses pointes en direction du Tchad, du Congo et de l'Abyssinie. L'Égypte s'affirmerait en tout cas comme un centre puissant d'attraction pour l'islam africain et asiatique. En conséquence, il est incontestable que l'Égypte caresse un véritable rêve impérialiste. L'égyptianisation du Soudan serait aussi redoutable pour l'Union africaine que pour le Commonwealth. En 1951, incapable d'aboutir à la signature d'un nouveau traité anglo-égyptien, le président du Conseil égyptien choisit la fuite en avant. Il invite les parlementaires à abroger le traité de 36 et les deux conventions de 1899, à réviser le statut du Soudan qui, avec l'Égypte, ne forme qu'une seule patrie et à proclamer le souverain roi d'Égypte et du Soudan. L'action du gouvernement égyptien est simplement considérée comme illégale par les Britanniques et ne se traduit par aucune modification concrète de la réalité administrative et gouvernementale au Soudan. Sur ces entrefaites intervient le coup d'État des officiers libres en Égypte et le renvoi du roi Farouk. Une nouvelle classe politique, sans attache particulière avec le régime précédent, arrive au pouvoir. Pour elle, la référence à la couronne égyptienne n'est ni spontanée ni positive. Si l'union de l'Égypte et du Soudan doit se réaliser, c'est à l'évidence dans un autre cadre qu'elle s'opérera. Il faut peut-être ajouter au compte de ces nouveaux politiques un certain machiavélisme. Le premier des 6 buts énoncés de la révolution égyptienne est la suppression de l'impérialisme et de ses agents. Accélérer le processus d'autonomie du Soudan revient à saboter les projets britanniques qui prévoient de conduire dans un délai relativement long le Soudan à l'indépendance, de le garder comme point d'appui de la stratégie régionale britannique et comme instrument de pression sur le pouvoir égyptien. Dans cette opération de sape, le général Naguib dispose d'un avantage considérable, susceptible de favoriser un rapprochement anglo-égyptien contre les manœuvres anglaises. Les Soudanais reconnaissent en effet en lui l'un des leurs, dans la mesure où, à moitié soudanais par sa mère, il est né à Khartoum en 1901, a passé une partie de sa jeunesse au Soudan alors que son père, officier, y était en garnison, et il y est retourné plus tard dans le cadre de sa carrière politique. Le général Naguib profite de la présence en Égypte d'une délégation mahdiste arrivée au Caire juste avant le coup d'État pour ouvrir des négociations sur l'avenir du Soudan. L'accord auquel il parvient prévoit la mise en place d'un statut d'autonomie pour le Soudan. Dans le cadre d'une commission consultative qui doit être établie, Naguib obtient très habilement la réintroduction de la présence égyptienne au plus haut niveau décisionnel du Soudan. La soudanisation complète de l'administration, de la police et de l'armée dans un délai de 3 ans a également été admise par Naguib, ce qui signifie que les Britanniques quitteront la vallée du Nil à très brève échéance. Pour les Égyptiens, la situation est relativement satisfaisante. Si le Soudan fait le choix de ne pas lier son destin à celui de l'Égypte, du moins, ne sera-t-il pas abandonné entre les mains des Britanniques ? En février 1953, les Britanniques ne peuvent que ratifier l'accord d'autogouvernement et d'autodétermination que les Égyptiens ont négocié avec l'ensemble des partis soudanais. Parallèlement à ces négociations, le nouveau pouvoir égyptien modifie résolument son attitude au Soudan. Alors que, sous la monarchie, la présence égyptienne au Soudan n'était guère visible, les Britanniques constatent une importante propagande égyptienne des visites du général Salah Salem, de multiples interventions de sa part et surtout une arrivée considérable d'argent égyptien. Les Égyptiens espèrent faire pencher la balance aux élections en faveur des partis unionistes. Et effectivement, le scrutin de la fin de l'année 1953 est un triomphe pour le Front National Unioniste d'Al-Azhari qui devient Premier ministre. Le 1er mars 1954, l'ouverture solennelle du Parlement aurait dû être un triomphe pour ce courant unioniste, le général Naguib faisant le déplacement à Khartoum. Mais les mahdistes, ce jour-là, sont résolus à manifester leur opposition aux perspectives d'unité anglo-égyptienne. Et très rapidement, la situation tourne à l'émeute. On déplore en fin de journée 30 morts et une centaine de blessés. Naguib repart dès le lendemain pour le Caire. Cette opposition violente à la présence égyptienne et le départ précipité de Naguib scelle le destin du Soudan. Pour sauvegarder la concorde dans le pays, les unionistes vont chercher à se rapprocher de la position mahdiste et quand en novembre 1954 Naguib est arrêté, l'option de l'union égyptienne cesse d'être crédible. Ainsi, le 1er janvier 1956, le Soudan prend son indépendance. Dans la querelle qui oppose l'Égypte au Royaume-Uni sur la question du Soudan, on peut dire que l'Égypte remporte un succès, certes à minima, puisque l'union politique n'est pas réalisée, mais le Soudan n'est pas devenu une autre Transjordanie. Je vous remercie.
Merci beaucoup d'avoir tenu le temps. Alors, nous avons 20 minutes, pas plus, pour engager la discussion. Alors, qui veut tout de suite prendre la parole? Alors, je vous demande d'utiliser le micro.
were very interesting. I have a question for Anne-Claire. I was actually wondering if you could elaborate on the very last line of your paper when you say that that in 1956 the Sudan became independent, you know, even though Egypt did not realize its goals, at least the Sudan had not become another Transjordan. And I'm wondering if you could elaborate for us on the parallels with Transjordan there. And then for Azza, my thought is that, you know, you're commenting on the implications for medicine and health issues, anthropology and so on, but really I think your arguments are also calling into question religious categories, Muslim versus Christian, again, that old dichotomy, and the very problematic nature of the term animist. So that when analysts look at either North Sudan or South Sudan, there's always this tendency to insist on counting the number, the proportion of Muslims or Christians. Oh, the North is, you know, whatever, it used to be 70% Muslim. And then there was always this gray area. Well, what about people who don't identify as either Muslim or Christian? Or what about people who are actually mixing Islam and Christianity and who have hybrid identities? And what does this mean? And at the same time, this idea of the animist element goes back to the earlier point about, well, there is perhaps, or there was, from what you studied, a common Sudanese medical or health-related culture of people going to different kinds of specialists in order to seek cures. And that this was a common Sudanese culture, and that it may end up becoming replicated in, or not replicating, it may be maintained in South Sudan. Thank you.
On prend quelques questions et ensuite il y a.
Je ne peux pas en prendre trop à la fois.
Oui. Bonjour. Ma question c'est, est-ce que le terme domination égyptienne, est-ce que c'est le terme approprié pour décrire la relation du Soudan et de l'Égypte et du Soudan? Moi je trouve que ce terme vient d'une vision de sort du Soudan sous l'optique coloniale, parce que les Égyptiens n'ont pas dominé le Soudan. Comment un pays déjà colonisé peut coloniser un autre pays ou dominer un autre pays? Je crois que l'Égypte était. Madame, je pense qu'il ne faut pas rigoler sur ce que j'ai dit.
Non,
c'est
pour
savoir
quel est celui de nous deux qui répondra à la
question. Je vois qu'il y a. Voilà, ça, c'est pas sérieux. D'abord, je trouve que les Égyptiens étaient colonisés par les Turcs, ensuite par les Britanniques. Même s'il n'y avait pas de présence britannique en Égypte, l'Égypte était sous la domination britannique. Et vous-même, madame, quand vous parlez, d'ailleurs, vous dites que le dernier mot était toujours aux Britanniques et pas aux Égyptiens. Alors, vous n'avez pas pris en considération ce que les Soudanais pensent de la présence égyptienne au Soudan. Est-ce qu'ils considèrent cette présence comme domination? Parce que c'était une présence quand même très limitée. C'était une présence militaire. Les Britanniques utilisaient l'armée égyptienne pour réprimer les révoltes au Soudan et en Égypte. Est-ce que le mouvement de libération nationale au Soudan était toujours un mouvement contre les Britanniques, n'était pas contre les Égyptiens? Les historiens soudanais, quand ils parlent de cette présence, ils ne parlent pas, de domination ni de colonisation égyptienne. Si les Égyptiens pensent que le Soudan faisait partie du Soudan, c'est leur problème. Est-ce que les Soudanais pensaient que leur pays fait partie ou faisait partie de l'Égypte? Non. Est-ce que les Égyptiens pensaient que tout le Soudan faisait partie de l'Égypte? Non, parce que les Égyptiens avaient des intérêts au Soudan et surtout les eaux du Nil. Pour eux, l'important c'est le vallée du Nil, pas le reste du Soudan. Et le sud ou l'est qui n'est pas arabophone ou leur domaine d'intérêt, ils s'intéressaient seulement aux œufs de Nil. Alors parler d'une domination égyptienne du Soudan, c'est une vision coloniale. Et je trouve que ce terme n'est pas approprié. Je ne parle pas d'un ressentiment à l'égard des Égyptiens, mais je parle des faits historiques. Je vois comment les Soudanais, les relations des Soudanais avec les Égyptiens, c'est des relations fraternelles, mais ce ne sont pas des relations entre dominés et dominants. N'a jamais été comme ça. Et quand les Britanniques sont arrivés au Soudan, ils ont trouvé des institutions déjà installées par les Turcs. Et le Mahdi, le mouvement mahdiste a utilisé ces institutions. Et quand les Britanniques sont arrivés, il y avait déjà des institutions. Et ces institutions au Soudan, sous les Britanniques, étaient des institutions britanniques. Il n'y avait pas de présence égyptienne, ni dans le système scolaire, ni dans le système administratif. Et le système administratif soudanais reste jusqu'à aujourd'hui un système inspiré du système administratif britannique. Il n'a rien à voir avec le système en Égypte. Alors ce terme, je trouve qu'il n'est pas du tout approprié.
Merci madame. Je pense qu'une réponse me sera apportée. Alors encore une question, Christian.
Oui, je vais poser sous forme de question. Un commentaire. Est-ce que Elsa a entendu parler, est-ce que tu as entendu parler de cette clinique du Zahar qui était à Khartoum, que j'ai visité il y a quelques années, et où le thérapeute, un fakir, hébergeait les patients et les patients, il y avait deux parties, hommes et femmes, et certains de ces patients lui étaient envoyés par des médecins. Ça fonctionnait, il y avait à ce moment-là, bon, une collaboration entre les thérapeutes traditionnels et la médecine psychiatrique moderne. Et je ne pense pas que c'est disparu, enfin tu me le diras si ça t'est dit aux oreilles. Maintenant, deuxième chose absolument extravagant, parce que là on est dans les domaines, je ne pense pas me tromper en disant que dans la campagne, dans la savane sud, au sud du Soudan, les Nuer et les Dinka des villages, même s'ils côtoient des évangélistes et des humanitaires, et autre chose, autre moyen de se soulager, d'abandonner les problèmes mentaux qu'ils peuvent avoir, que par recours au sacrifice. Et je terminerai là-dessus, le sacrifice est une donnée fondamentale des thérapies hypnotiques, tout comme de la religion d'ailleurs, et ce qui était dernière question et commentaire, connais-tu le travail de Sadok Abdessalam avec Tobin Nathan? Parce que là, il nous montre un truc absolument extravagant que j'aurais bien voulu voir. J'aurais bien voulu aller à Wad Medani voir ce type qui fait des sacrifices, qui asperge l'assistance de sang. Et c'est effarant. Je ne sais pas s'il existe encore, s'il y a eu des ennuis avec les gardiens des bonnes mœurs. Et je terminerai par cette clinique du Zahar pratiquait le sacrifice, mais sous une forme nouvelle, tout comme d'autres médecines pratiquaient des formes d'excision qui étaient tout à fait acceptées et pas du tout reliées avec la traditionnelle. Il n'y avait pas d'application du sang, parce que dans tout ce qui est la culture soudanaise, donc comme ailleurs la culture zahara, c'est le sang. Qu'est-ce qu'on fait du sang? Alors, dans cette clinique de Zahar, il n'y avait pas d'application de sang. Le gars se débrouillait pour faire autre chose, mais on avait recours à la transe, on avait les choses qui étaient comme s'il y avait application ou absorption du sang. C'est l'élément fondamental dans la médecine islamique traditionnelle par la transe et dans la médecine nilotique qu'on connaît. Et là, je suis dit, Evan Spencer nous a donné des choses qui sont encore en pratique dans les campagnes, comme on a pu voir chez les Babins quand j'y étais encore avant qu'il y ait la guerre, et à Andorma, mais là, il faudrait voir chez Hutchinson ce qui se passe dans la culture nilotique nuer dans les trois villes. Et je termine par un. Connais-tu le travail d'un gars qui était, quand j'y étais encore, Rahim Hakim, je crois, qui vient de cette maison, qui a fait une tête
Karim Rahim. Karim Rahim.
Voilà. Oui. Qui a fait un travail auprès des Chilouks de la, oui, de Soba, Ou alors, effectivement, lui, pour venir en aide aux thérapeutes modernes des OIV, avait fait justement comprendre que tout venait de la parenté. Tout le problème vient de la parenté. C'est bon. S'il y a quelque chose de désordre.
Christian,
oui,
merci, bon. Parce que sinon il n'y aura pas le temps pour la
réponse. Oui, Christian, on la reparlera.
On prend une dernière question, très rapide.
Vraiment très rapide.
Le micro, oui. Oui, vas-y.
Voilà. Et une question pour Arza. Je me demandais, en fait, si dans le cadre des maladies mentales d'une personne qui s'identifierait comme arabe, donc dans une situation différente que celle que tu décris, est-ce que cette personne essayerait de contacter quand même un bonjour, un guérisseur noir? Parce que j'ai un peu l'impression que les choses se mélangent assez.
Oui.
Et puis, je voulais revenir sur ce que disait Najat. En fait, la question dont vous avez parlé est très, très intéressante et jaloux. Il y a beaucoup de travaux, effectivement, sur les connexions entre l'Égypte et la Grande-Bretagne à niveau politique. Mais ce qui dit Najat, effectivement, est une autre perspective. Et je trouve que dans beaucoup d'études, ce qu'on met souvent à côté, c'est la perspective locale, ou les perspectives locales. Et donc, c'est important, et c'est un important rappel de nous dire, effectivement, il faudrait penser à ça aussi. Malgré que ce que vous avez dit est vraiment très bien, très intéressant, mais voilà, c'est un oubli systématique, c'est un oubli systématique de l'histoire sociale, effectivement.
Ouais. En fait, en l'occurrence, c'est pas un oubli systématique, c'est une question de temps.
Ouais.
Parce que... Voilà, on ne peut pas dire tout, enfin, en tout cas, sur la position des Soudanais, mais peut-être que...
Oui, je veux bien.
La question qui vous a été posée, on est obligé de répondre à
deux. Oui, parce que comme les racines... il y a une imbrication, c'est ce que je disais avec Anne-Claire à un moment. Toutes les questions, c'est en même temps une manière de rebondir sur son intervention. Moi, j'ai été frappé à quel point toutes les questions qui sont posées, qui sont mises sur le tapis dans cette affaire, entre cette polémique entre l'Égypte, l'État égyptien, les nationalistes égyptiens et l'impérialisme britannique finissant, essayant de retenir ce qu'il peut retenir et d'ordonnancer les choses selon son point de vue, c'est un point de vue très paternaliste. Je suis frappé à quel point tout ça s'est formé, a été dit, est une reprise de ce qu'on a pensé, de ce qui a été dit, de ce qui a été fait au XIXe siècle. Alors concernant, si vous permettez, je vais répondre à votre question, même si je n'ai pas compris si elle portait sur le XXe, j'ai l'impression qu'elle portait plus sur le XXe que sur le XIXe, mais il se trouve que le problème... C'est-à-dire s'il y a eu colonisation ou pas égyptienne et de quels égyptiens, ça s'est passé au 19e. Donc personne ne met en doute qu'il y a eu une colonisation de l'Égypte, qu'il y avait une situation coloniale de l'Égypte et du Soudan et de l'Ouganda, enfin, Cap-Souquer. Personne ne met ça en doute, oui, si on sert le 20e siècle. C'est la ligne le Cap-Caire, personne ne met ça en doute, c'est pas la question. Bien sûr.
Oui,
mais ça, je sais. Ce que je voulais dire, c'est que il y a un point sur lequel je suis entièrement d'accord avec vous, c'est quand vous parlez des Égyptiens comme des colonisés par les Ottomans. Parce que c'est effectivement, moi, dans mon idée de mettre ensemble cette histoire de l'Égypte et du Soudan, c'est une chose qui me semble personnellement de plus en plus... tentante et manifeste, c'est-à-dire par rapport à ce schéma de l'histoire classique du Soudan, c'est-à-dire la colonisation des terres soudanaises par les turco-égyptiens, etc., etc., de considérer qu'au fond, quand on étudie ce qui se passe en Égypte au même moment vis-à-vis de la population autochtone, hein, et en plus vis-à-vis de ce qu'on observe comme l'évolution de la population autochtone en Égypte, donc les Égyptiens, les futurs Égyptiens, on vous parle, hein, qui va aboutir à la crise arabiste et au reste, à l'occupation anglaise de l'Égypte. Moi, je pense qu'effectivement, on peut considérer qu'il y aurait une colonisation globale des populations autochtones de l'Égypte et du Soudan par les Ottomans, mais qui sont des gens qu'on ne peut pas dire turcs uniquement par la langue. Ça, effectivement, je vous remercie d'avoir dit ça, parce que c'est effectivement quelque chose qui, pour moi, devient de plus en plus clair, de considérer, une manière aussi de considérer globalement l'État turco-égyptien dans l'Empire ottoman. Maintenant, quant au fait, il y a une autre question qui est derrière ça, à mon avis, c'est le fait qu'il ait pu y avoir une colonisation qui n'ait pas été du fait des Européens. C'est qu'il y ait pu avoir une colonisation de musulmans, d'États musulmans, qui comprenaient des Égyptiens, à qui ça posait aucun problème, vis-à-vis de musulmans du Soudan, et je ne parle pas des non-musulmans d'Afrique centrale. Et c'est dire qui je ne sais pas si j'interprète, mais s'il y a cette construction comme quoi la colonisation serait un terme qui serait un privilège réservé aux Européens. Alors que ce que je peux vous dire, c'est qu'en Afrique soudanaise au XIXe siècle, s'il y avait des gens qui étaient craints par les populations et par les pouvoirs qui restaient indépendants en Afrique, le Darfour, le Harar, enfin, c'était ceux qu'on appelait les Turcs, c'est-à-dire des Turcs, des Égyptiens, etc., et ce n'était pas les Européens. Et que les Européens qui ont été tués à ce moment-là, les voyageurs, c'est qu'on les prenait pour des Turcs. Donc il y a un fait incontestable qu'il y a eu une situation coloniale de la part des gens qui gouvernaient l'Égypte au nom du sultan ottoman au XIXe, de l'Afrique, que les premiers colonisateurs de l'Afrique, de l'intérieur de l'Afrique, ce ne sont pas des Européens, même s'ils avaient des mercenaires européens, c'est des Ottomans, ce qui comprenait aussi des Égyptiens, des Coptes, parce que parmi les premiers colonisateurs au moment de la conquête, il y avait des Coptes qui, à mon avis, sont des Égyptiens quand même. Oui, pardon. Oui. Donc, voilà en gros ce que je voulais dire sur la question de la colonisation.
Voilà. Non, attendez, parce qu'il n'y a pas une réponse, on ne peut pas faire un dialogue entre vous. Je pense que peut-être le terme de colonisation n'est pas le bon dans le cas présent. Il faudrait voir. C'est un système de poupée russe, en fait.
Il faut définir le mot colonisation.
Oui, tout à fait.
Non, mais il y a certainement de la suggestion. À partir du moment où il y a eu de la traite historique, la traite du sud vers le nord, il y a eu des suggestions. Il y a eu. Bon, enfin, ça, c'est un développement qui sera peut-être repris cet après-midi. Mais comme il y avait d'autres questions qui s'adressaient aussi à Aza, je voudrais lui.
Je vais commencer avec une question, merci. Je suis consciente de ce que vous évoquez comme terrain, mais je voulais insister sur le fait que selon mes recherches, je focalisais sur le système thérapeutique pluraliste au Soudan, mais qui est classifié comme non harmonieux. Et donc les liens sont caractérisés par des tensions qui proviendraient d'une contradiction entre le discours de pouvoir et la réalité sociale. Donc il y a cette contradiction et cette contradiction que je voulais souligner justement dans les choix thérapeutiques dans le système ne bénéficie pas du même statut. Donc il y a une hiérarchie. Et pour la question d'Elena, oui, pour les femmes arabes, soi-disant, oui, il y a une consultation, il y a une consultation, mais il ne s'agit pas de classification ethnique, en fait. Donc, j'ai vu des femmes arabes aller consulter des sudistes, mais justement, elles se limitent à des systèmes qu'elles connaissent. Donc, elles vont voir, elles vont pas voir forcément le Kujur, mais elles vont voir une sudiste qui pratique le culte de Zah. Donc, elles vont encore rester dans le système qu'elles connaissent, mais par contre, elles vont pas faire de distinction selon des bases ethniques pour le guérisseur, par rapport au guérisseur, par rapport au choix de guérisseur.
Merci, Anne-Claire.
Alors, je prends 2 minutes pour répondre. Ce que pensent les Soudanais, je ne l'ai pas évoqué parce que je ne pouvais pas parler de tout. Donc, mais clairement, ils sont outrés qu'en 1946, on renégocie le traité sans qu'on prenne en compte leur point de vue, par exemple. J'ai quand même rapidement évoqué le fait qu'il y a plusieurs positions soudanaises, plusieurs courants soudanais vis-à-vis de l'avenir du Soudan et de la position à l'égard de l'Égypte, et notamment les Ansar qui vont clairement s'opposer à une union de l'Égypte et du Soudan. Je l'ai évoqué. Donc on a à la fois un courant qui est favorable à l'union et un courant qui est pour une indépendance sans contact avec l'Égypte. Donc le mouvement de libération, il ne s'exprime pas uniquement à l'égard des Britanniques, mais aussi à l'égard du discours égyptien qui existe et de l'affirmation par l'Égypte d'une unité de la vallée du Nil. Alors, vous m'avez posé la question de la colonisation égyptienne. Alors, effectivement, dans la période du condominium, les Égyptiens sont très peu présents. En tout cas, après 24, clairement, ils sont quasiment absents. Ils sont présents par le biais des finances, je l'ai évoqué. Ceci dit, avant 24, il y a quand même une présence militaire égyptienne. Et les Égyptiens qui sont dans ceux qui sont dans l'armée, ce sont les ruraux. Hein. Donc, par ce biais-là, on peut parler éventuellement d'une certaine forme de présence et de colonisation égyptienne. Mais ce qui m'a aussi intéressé, enfin ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'était le discours égyptien. Et ce discours, c'est quand même un discours d'affirmation d'une souveraineté de l'Égypte sur le Soudan. Et le discours est quand même au moins aussi important que la réalité des faits. Quant à la Transjordanie, en fait, ce sont les propos du ministre soudanais des Affaires sociales, qui était aussi un des principaux lieutenants d'Ismail al-Azhari, qui est donc premier ministre après les élections de 1953, et lui se félicite que le Soudan ne soit pas devenu une autre Transjordanie, c'est-à-dire un pays avec des liens étroits, très étroits, avec le royaume britannique. La Transjordanie a une histoire, enfin, ce qui devient la Jordanie d'ailleurs, a une histoire quand même privilégiée de relations étroites avec le Royaume-Uni.
Voilà, merci.